Elle ne prend pas la parole, qu'elle n'existe pas. Pour préciser un petit peu l'ensemble des personnes qui sont venues nombreuses pour parler d'une thématique sur la santé mentale et aujourd'hui et la thématique de cette année, c'est les discriminations dans la santé mentale, si j'ai bien tout retenu. N'hésitez pas à me corriger. Alors les invités, il y a Yvan. Bonjour Yvan. Ensuite on a, alors je laisse te présenter, j'ai pas retenu tous les prénoms.
Marie-André.
Jean-Louis, donc, usager de santé mentale.
Marie-Christine.
Bonjour à tous. Alors, je n'ai pas encore retenu tous les noms, hein, parce que ça fait beaucoup, mais on aura le temps dans cette heure d'émission d'en parler. Voilà un petit peu donc, la santé mentale, les méthodes douces chinoises. LOL va démarrer la présentation, et puis tout le monde va faire un tour de table. C'est surtout pour parler un peu des discriminations et surtout d'exemples, de témoignages. Il y a énormément, c'est des personnes qui ont énormément de choses à dire. C'est vaste, ça représente beaucoup de maladies, beaucoup de choses à faire et de choses qui sont faites également avec énormément d'associations. Donc merci d'être là, je pense qu'il ne faudra pas qu'une émission, mais on va déjà commencer par celle-ci. Je n'ai pas toutes les informations en tête, mais de ce que je me souviens, alors Malvina fait pour les événements à venir, hein, il y a des belles choses, il y a une exposition bande dessinée au Macanudo demain. Vous avez également une exposition en papier art avec plusieurs dessinateurs au Palais de Bondy qui a démarré cette semaine et qui a lieu plusieurs jours. Je vais vous retrouver les dates dans quelques instants. Et puis bien sûr, j'oubliais bien sûr Karine Davier, une chanteuse qui a cette particularité de faire de la musique électronique avec des instruments baroques, donc le mariage d'instruments de musique classique baroque et de musique électro. Elle fait de la chanson française assez drôle.
Et en plus, c'est à l'époque, c'est ça qu'on peut faire. On peut marier le baroque.
Oui, Nicolas.
Aussi mettre des instruments électroniques.
C'est ça. Donc
ça fait pas mal, hein, ça se développe un petit peu avec un PC, un clavier, on peut faire des nouveaux instruments, des nouveaux sons, on a accès à plein de sons.
Voilà, exactement. Donc Nicolas, si tu es libre ce soir, Karine Davier est en concert. En première partie, c'est le singe. Je ne sais pas si c'est un artiste ou un groupe. Et
il y a des sons, des trucs, on peut faire plein de choses. Hein.
C'est ça, voilà. C'est vrai. Musique électronique, donc...
Dans l'équipe, là, il commence à lancer des trucs un peu... Des instruments électroniques, là, ils essayent.
Avec des musiques électroniques, exactement.
Il y a des bons sons qui sortent, hein, franchement, des nouveaux sons, des nouvelles façons de...
Voilà, exactement. Bah, Nicolas a tout dit, venez ce soir au concert de Karine Davier, il y a du bon son. Bien sûr, c'est à la MJC des Rancy, hein, parce que si je vous dis pas où c'est... C'est LOL qui va prendre la parole. Bonjour LOL.
Bonjour.
Alors c'est LOL Mio.
Oui,
LOL Mio. On va tout de suite indiquer ton nom parce que tu as un Facebook pour voir déjà ton travail.
Oui, alors pour les personnes qui souhaitent voir mon travail, j'ai une page Facebook qui s'intitule LOL Mio Qigong. LOL LOLE MI2LOT. Voilà, ça c'est pour voir ce que je fais sur Lyon, Marseille ou aussi en visio. Voilà.
Ah oui, du coup, ça devient très vaste. C'est super. Donc, tu vas carrément dans le sud de la France, tu te déplaces On s'était rencontrés, donc tu faisais des événements au parc quand il faisait beau.
Oui, tout à fait. Et alors, en ce moment, tous les mardis à 17h, je propose une forme en Qigong qui s'appelle le Zinen Qigong. Donc c'est un Qigong qui est traduit en français par le Qigong de la sagesse. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas cette pratique du Qigong, c'est une pratique qui est utilisée, qui vient de Chine, que moi j'utilise dans le cadre de la médecine traditionnelle chinoise, que je pratique aussi sur Lyon. La médecine traditionnelle chinoise repose sur 5 piliers. On a l'acupuncture, on a le tuina, le massage thérapeutique, la diététique, la pharmacopée, et on a un 5e pilier qui parle de ce qu'on peut faire tous les jours pour être encore plus en santé, en meilleur équilibre. Et là-dedans, voilà, on a le Qigong notamment. Alors pour un peu plus de précision,
comment ça se passe? Il y a des exercices de relaxation, de mouvement. Enfin, j'imagine que c'est un peu complexe comme ça à résumer, mais
alors effectivement, le principe c'est des mouvements lents, harmonieux. Qigong, si je le traduis, le qi c'est l'énergie, le souffle, et ça va être donc cette énergie invisible qui est à l'intérieur de nos corps, mais aussi à l'extérieur. C'est un peu le principe de vie, de tout ce qui existe. Et Kong, ça va être la notion de la force qui est déployée dans le travail. Et c'est la notion de travail, mais comme plus le travail artisanal qui, à force de faire, on va avoir une meilleure compréhension, on va s'ajuster, un regard un peu plus fin. Et ce travail-là, il est sur nous. Donc, il a vocation à ce qu'on trouve pour soi et dans un rapport au monde un meilleur équilibre. Voilà.
Tous les cas, tu as vraiment une voix très apaisante. Je trouve que t'es très... Déjà, tu nous poses et tu nous apaises, tu stabilises.
On est centré dans le monde un petit peu.
Oui, oui. Alors, c'est une pratique où on va avoir un gros travail sur... la conscience, sur le fait de venir détendre la conscience. Un travail avec ça, en même temps un travail d'ancrage. Donc d'ancrage dans son corps, mais aussi donc un travail de meilleure conscientisation de son corps, de soi, mais aussi soit dans son environnement. Là, il y a un peu... On travaille à prendre goût, à faire des allers-retours avec qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, comment ça bouge, quels sont les mouvements, où est-ce que je peux amener plus de mouvements, où est-ce que je peux diriger ma conscience pour une meilleure circulation. Et tout ce travail-là, dans quoi il va s'intégrer dans un univers un peu plus grand qui va être... voilà, là, il se trouve que le mardi, on est dans un parc. Du coup, conscientiser le fait qu'on soit dans un parc, qu'on soit dans un groupe qui est dans un parc, qu'on est dans Lyon, qu'on est... Voilà, et tout ça, on est dans l'univers. Voilà, on fait un peu des allers-retours aussi avec au plus profond de soi, au plus loin. Et ça, c'est une espèce de... Ça permet de malaxer la conscience, la détendre, et le reste du corps, j'ai envie de dire, il fond et on circule mieux.
Merci, voilà. Lol, merci beaucoup pour cette petite définition du Zinen Qigong. Je l'ai bien dit?
Oui.
Oh, ouais, je vais y arriver.
Alors, ça nous parle et puis c'est relaxant, Nicole. Quoi.
Bah, ça, je vous invite à venir découvrir d'un petit peu plus près le mardi, donc au parc Blandan. Je donne rendez-vous aux personnes à 16h50 au 37 rue du Repos. Comme ça, on a 10 petites minutes pour aller se poser. Voilà, c'est à prix libre. Du coup, tout le monde est bienvenu en fonction de vos moyens. Vous donnez ce que vous pouvez, si vous le pouvez. Voilà.
Voilà, en totale liberté. Merci Lol pour ce moment de partage. Alors, on reprendra un autre moment, une émission peut-être pour parler entièrement de comment tu appelles ça, d'un mouvement, comment on définit une tradition, une philosophie,
ouais,
comment tu le...
Je sais pas, peut-être...
Une activité.
Bah, pour moi, en tout cas, je peux que parler pour moi, c'est, ça devient mes pratiques du quotidien, quoi.
Une pratique de vie.
Ouais, on va dire ça, ouais.
On en reparlera, donc je pense que ça mériterait d'avoir une émission entière, mais je voulais te présenter du coup, bon, ça s'est trouvé en même temps que avec les invités, d'une thématique finalement qui se rejoint, hein, finalement. Tu proposes une forme de bien-être, de décontraction, de relaxation. Là on parle aujourd'hui de la santé mentale, donc ça peut être une porte, une activité, un outil.
Concrètement, moi je l'utilise comme un outil en santé mentale aussi.
Donc merci.
Ah oui, sincèrement, je pense. Hein. Je pense que ça peut que faire du bien.
Est-ce que dans les invités ou dans les entourages, vous pratiquez aussi des exercices comme ça qui sont assez proches de relaxation, ou quels sont les éléments de bien-être Yvan ?
Oui.
Attends, je t'ai pas montré ton micro.
Il m'est arrivé de pratiquer la méditation en pleine conscience. Que certains appellent aussi mindfulness, pour utiliser la terminologie anglaise. Donc c'est une forme de, oui, comme son nom l'indique, de méditation en pleine conscience, voilà. Et qui apporte, alors c'est pas pour faire de la relaxation, c'est vraiment méditation en pleine conscience, c'est pendant un certain temps arriver à s'échapper un peu de soi, et voilà, à profiter d'être là, ici et maintenant.
Merci Yvan. Alors tiens, je vais faire un petit extrait musical. On fait une petite pause, comme ça Lol peut se faufiler et passer le micro. Je vous ai fait cette surprise sans transition de groupe de métal The House Consequences. Lol est parti du studio parce qu'on est très nombreux, donc en fait on doit se laisser la place autour de rôle pour parler aujourd'hui. Donc on fait un petit tour de table, peut-être qu'on commence par toi Yvan, qui est un peu plus à l'aise avec la radio, parce que tu en as déjà pratiqué.
Oui, effectivement.
Donc merci à tous d'être ici.
Oui.
Donc Yvan, je te laisse te présenter.
Oui.
Comme on a fait...
Yvan, ben je suis là aujourd'hui en tant que bénévole d'une association qui s'appelle Luna Femme, Donc je laisserai peut-être la présidente Marie-Andrée, qui est là aussi, le soin de présenter la vocation et voilà, à quoi ça sert, tout ça. Et je suis venu aujourd'hui parce que chaque année, il y a une semaine d'information sur la santé mentale et qu'on essaye d'organiser des événements pour sensibiliser le grand public à ces questions. Et voilà, on voulait aujourd'hui venir en parler. Donc merci Delphine de nous accueillir.
Donc il y a beaucoup de choses à dire et il manque d'événements, c'est ça? Avec le Covid, tout a bloqué sur l'organisation d'événements où d'habitude vous accueillez du public.
Exactement, ça nous arrive souvent chaque année d'organiser des événements qui sont en extérieur où du public doit être accueilli. Évidemment cette année, un bon nombre de ces événements ont été annulés. On a eu ce report déjà de la semaine initialement prévue en mars à cette semaine d'octobre. Et au final, on est tout content de pouvoir quand même en parler grâce à l'émission radio. Donc encore une fois, merci Delphine de nous accueillir pour pouvoir parler de santé mentale et peut-être plus particulièrement de discrimination en matière de santé mentale.
C'est l'objectif de Patchworld, hein, d'avoir la parole avec une diversité de personnes, de profils et de cultures aussi. Qui est-ce qui fait le tour? Bonjour.
Bonjour, donc je suis
Marie-Andrée,
présidente de la délégation UNAFAM du Rhône. Donc l'UNAFAM, c'est l'Union nationale des familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques. Donc la principale mission de l'UNAFAM, c'est d'accueillir, d'écouter et d'accompagner dans la durée les familles et les amis, l'entourage, de manière générale, des personnes qui vivent avec des troubles psychiques. Et notre association est principalement constituée de bénévoles. Nous sommes donc des pères aidants, familles, qui sommes concernés par la maladie ou le handicap psychique d'un proche.
Si quelqu'un veut se renseigner ou venir vous voir, il y a un lieu. Pour ça, il y a une permanence? Est-ce qu'il faut vous appeler, vous contacter par mail ou sur un site?
Alors, il y a un lieu. Nous avons un siège qui est rue Voltaire dans le 3e arrondissement de Lyon. Nous avons un site internet, hein, qui est un site je dirais, associé au site de l'UNAFAM nationale, qui est très bien fait parce qu'il a été relooké l'année dernière et il est très attractif. Nous avons une adresse mail, bien sûr. C'est très facile de trouver en fait les informations concernant l'UNAFAM du Rhône. Et nous avons une permanence pour accueillir les familles tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi.
Donc Marie-Andrée, tout à l'heure, tu me donnais les chiffres du nombre de personnes qui sont concernées par la maladie, les problèmes de santé mentale, hein, pour parler en termes généraux, parce que ça recouvre beaucoup de maladies. Donc vous avez vraiment toute une palette de profils différents avec cette complexité, j'imagine, de différences d'accompagnement aussi, de nuances à proposer.
Alors la maladie psychique, elle est très répandue. Malheureusement, je dirais, au niveau mondial, hein, selon l'OMS, c'est 6% de personnes qui sont affectées d'un trouble psychique sévère. Donc quand on parle des troubles psychiques sévères, c'est schizophrénie, trouble bipolaire, dépression sévère et résistante, trouble obsessionnel compulsif, ce qu'on appelle en abrégé les TOC, les gens connaissent en général cette appellation. Et donc 6%, si on transcrit ça pour le département du Rhône, pour l'ensemble du département, c'est 110 000 personnes, ce qui est considérable. Donc on croise forcément dans la rue une personne malade psychique sans le savoir, parce que la maladie psychique, c'est une maladie invisible la plupart du temps.
Ou peut-être qu'on le sait déjà, du coup ça veut dire que ce serait très rare de ne pas avoir quelqu'un dans son entourage, famille ou ami qui n'est pas concerné, si on ne l'est pas directement.
Oui, mais très souvent on n'en parle pas, parce que c'est une des dernières maladies taboues, la maladie psychique, elle fait peur, et on a tendance à la rejeter, à la mettre de côté, à ne pas en parler, à occulter. Et les familles, les personnes et les familles sont dans l'isolement.
Donc ces associations, ces structures, comme l'UNAFAM, permettent de réunir des personnes, des familles, d'en parler ensemble, de faire des choses, notamment les affiches là, que Bénédicte a mis à l'entrée de Radio Canu, par exemple.
Oui. Et puis pour les familles, c'est un soutien aussi.
Oui. Les associations comme l'UNAFAM permettent d'accueillir et de soutenir les familles dans une relation de père à père, d'entraide, de solidarité. Les personnes qui viennent aux accueils se reconnaissent en nous parce que nous sommes des pères qui traversons ou avons traversé les mêmes épreuves, la même détresse qu'elles.
Nous avons Jean-Louis Jeannin aussi qui est là. Je vous dis, il y a de nombreux invités aujourd'hui. Coordination 69.
Voilà, donc bonjour Jean-Louis Jeannin. Je suis donc une personne concernée, c'est-à-dire qui a connu la maladie. Donc depuis très longtemps, je travaille dans la réinsertion tout en ayant eu un travail profane. J'ai même représenté les usagers en 1987 au Congrès mondial de la réinsertion à Lyon, à la Tour du Cancer. Donc ce que je dirais, c'est que la santé mentale, c'est pas forcément un obstacle. Donc c'est quelque chose qui va nous construire, qui va nous aider, et ça peut être un plus. Donc, et nous, en tant qu'ex-patients, on a à stimuler les personnes qui sont dans le creux, comme tout à l'heure j'ai entendu. Des gens restent très longtemps à l'hôpital et parfois ils n'ont plus d'espoir. Et nous, on est là aussi avec les soignants pour leur dire, eh bien si, continuez, ça va aller mieux un jour. Et donc, c'est vraiment important. On a beaucoup d'activités actuellement dans la santé mentale parce qu'il se passe vraiment une construction. Donc, je voudrais pas trop m'étendre à travers le projet territorial de santé mentale, et où sur Lyon, Rhône, c'est presque le seul département. Hein. J'ai appris qu'il y avait des usagers aussi à Rennes qui ont travaillé sur le PTSM. Mais vraiment, ce qu'il y a de bien, c'est qu'aujourd'hui, les personnes concernées ont tout à fait leur place dans le milieu de la santé. Avec l'expérience et tout, soignants, donc famille et aussi les responsables des structures qui travaillent pour vraiment transformer, améliorer, je dirais presque guérir ces personnes qui sont dans des moments passagers difficiles. Voilà, c'est ça notre mission. Donc, et aussi de montrer que la santé mentale n'est pas la fin de tout, au contraire, ça peut être beaucoup mieux, quelque chose qui va nous apporter un bien-être, des possibilités que sans cette maladie, on n'aurait pas connues.
Merci Jean-Louis Jeannin pour toutes ces explications. Alors, vous vous occupez de deux structures, il y a Coordination 69 qui coordonne donc 28 structures, c'est ça ?
Oui.
Et puis la FNAPSI, vous m'avez parlé
oui,
de ça.
Oui, donc la Fédération Nationale des Associations de Santé Mentale. Voilà, donc oui, bien c'est en tant que je suis représentant, on est même représentant auprès du ministère de la Santé en tant que par la FNAPSI, donc hein, c'est-à-dire qu'on est là pour en tant que on aide donc les personnes. Concernés, on a des responsabilités vis-à-vis de la santé nationale, en somme, pour apporter vraiment quelque chose.
Donc, comment ça se concrétise ? Quel est, par exemple, votre rôle ? Une journée ordinaire, pour vous allez voir des personnes de la mairie, vous allez voir des personnes qui ont des soins, qui ont besoin de soins. Comment ça se passe concrètement, votre
action ? Et non. Pour l'instant, mon épouse aussi, on est complètement ensemble là-dedans. Donc, on est dans les structures. Donc, cette demande qui est faite des usagers pour apporter. Dernièrement, là, j'ai reçu un mail pour aller justement à Saint-Priest pour une réunion et on ne pourra pas aller. C'est la première fois. Donc, si j'ai bien compris, la ville de Saint-Priest a fait un contrat pour la santé, pour l'handicap, et on nous a demandé avec l'UNAFAM, j'ai vu, Et donc là, bien, on est pris ce jour. Et
oui.
Donc,
ce que je comprends, c'est que c'est beaucoup d'administration pour sensibiliser les différents organismes aux problèmes de santé mentale, pouvoir organiser des choses, et que ça complique en fait la donne avec le Covid et la situation actuelle.
Voilà, mais dans le passé, j'allais quand même avec cause. Sur Saint-Jean-de-Dieu, j'étais au milieu des patients de l'hôpital pour emmener les gens au cinéma, pour faire des débats, et
des
tout
sorties,
ça. Donc ça était quand même tout un chemin qu'il a fallu faire donc, pour construire un GEM qui fonctionne toujours. Donc.
Yvan, tu voulais intervenir ? Merci Jean-Louis.
Oui, je voulais compléter ce que vient de dire Jean-Louis, parce que il a parlé du fameux PTSM, projet territorial de santé mentale. Je voudrais juste dire que dans le projet territorial de santé mentale, il y a le T de territorial. Ça veut dire que pour définir la politique de prise en charge en santé mentale, on le fait déjà au niveau d'un territoire. Et la deuxième chose qui me paraît importante, c'est qu'on met toutes les personnes concernées autour de la table pour définir cette santé, ce programme de santé mentale. Et en l'occurrence, les personnes directement concernées par la maladie, qui parfois sont les mieux placées pour en parler. Hein. Voilà. Donc ça me paraissait important de le dire, que cette politique de santé mentale au niveau territorial, elle met vraiment tout le monde autour de la table, y compris les personnes directement concernées par la maladie, les usagers.
On a notre voix à dire, on peut dire ce qu'on pense, on peut essayer d'améliorer
Nicolas.
Les choses. Par exemple, on a réussi à... il y a des pères aidants, on a essayé de développer la pères aidance par des structures. Et puis on a vraiment le mot. Ce qui est bien, c'est qu'on est tous autour de la table, à égalité avec les médecins, les directeurs d'établissement, les assistantes sociales. Et on peut s'exprimer, donner une image positive, une bonne image des personnes concernées, des personnes souffrant de problèmes psychologiques.
Il faut dire qu'on est prioritaire, même personne concernée, je dirais, grâce à l'UNAFAM, parce que c'est un peu l'UNAFAM. On est prioritaire pour apporter notre plus dans ce projet territorial.
Et ce projet territorial, c'est vraiment grâce à la parole des personnes concernées dans tous les débats, dans tous les groupes de travail, au niveau du comité de pilotage, au niveau de la gouvernance aussi, de ce PTSM, eh bien, ça permet un levier de transformation très fort des évolutions dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale. Et le délégué ministériel à la psychiatrie et à la santé mentale, le professeur Bellivier, était là l'année dernière, fin 2019, à une réunion sur l'état en fait des lieux des PTSM de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et il a reconnu lui-même que c'était la première fois qu'il voyait un PTSM, celui du Rhône, qui était copiloté par une personne concernée. Et ça marchait très bien. Et il a dit, j'espère que cela va faire école. Donc on voit combien la parole des personnes elles-mêmes est essentielle pour faire évoluer les choses en santé mentale.
Yvan ?
Ça change un peu le
Nicolas.
Regard, on est sur le même plan. On travaille ensemble, donc ça change des données, des perceptions. C'est vrai. Je pense que avant il y avait beaucoup les institutions, l'UNAFAM. En amenant les personnes concernées, ça fait un équilibre et tout le monde s'y retrouve. Et même on apporte beaucoup de choses, je pense. Enfin, on s'apporte beaucoup de choses et on voit les choses différemment.
Alors Nicolas, on t'a pas présenté Nicolas Rameau,
oui.
Qui est venu parler aussi de la déstigmatisation sur la. Problème de santé mentale.
Oui.
Qu'est-ce que tu fais, toi ? Qu'est-ce que tu organises ? Alors déjà, tu as préparé l'émission avec Bénédicte.
Oui, puis Jean-Louis. On a commencé avec les états généraux. C'était des tables rondes par une association. Je suis venu un peu par hasard. Et on a débattu, on a fait des propositions. Puis après, j'ai rejoint d'autres associations, un collectif, toutes et toutes concernées. Après, j'ai fait partie du projet territorial de santé mentale. Et c'est plutôt bien parce que des fois, on est un peu isolé. On sort d'une période d'hospitalisation. On est un peu isolé, on est en rupture psychosociale. Un peu de rupture.
De réinclusion.
Voilà, de réinclusion sociale. C'est bien. On a l'opportunité d'avoir des interlocuteurs d'être utile, de se sentir utile. On essaie de donner une bonne image, comme je disais.
Nicolas Rameau, qui est à l'écoute, et que j'ai installé en cabine technique. Hein, ça va, tu...
Ouais, c'est plus cool. Ouais.
C'est plus cool. Ouais.
Plus cool. Et ça ouvre plein d'opportunités. Moi, par exemple, je serais prêt, avec une délégation, à rencontrer des entrepreneurs pour leur montrer que la santé mentale, que les personnes concernées, parce que c'est comme ça qu'on appelle, sont capables de plein de choses. Elles ont une sensibilité, une émotion, un peu plus... une émotion, mais c'est un peu, on est un peu comme tout le monde. Hein. Donc pour montrer qu'on peut être positif, qu'on est capable de grandes choses, qu'on... Moi, je serais prêt à mener des opérations comme ça pour convaincre. En tout cas, je participe à ta mission pour me donner une bonne image.
Est-ce que c'est l'action du collectif Tous et Toutes Concernées?
Ça rejoint un peu, oui, on en parle. On parle de psychoéducation, la notion de rétablissement. Pour ceux qui ne le sachent pas, qui sont en institution, le rétablissement, c'est quand on commence à se sentir bien. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, comment ils peuvent les définir. C'est des nouveaux concepts qui viennent un peu du Canada, l'Angleterre, et nous, avec le projet, on essaye de même, on est un peu pionnier hein, sur certains domaines, mais on essaye de rattraper le retard. Puis, en tout cas, c'est passionnant, ça me plaît.
Ce collectif, on peut le rencontrer ou on peut voir leur action sur un site ou un Facebook? Comment ça se passe? Ou ils rejoignent d'autres associations?
Moi, je vais dire quelques mots, mais parce qu'on va travailler avec Osper Sandara, donc, qui est un centre d'études du Vinatier, et aussi en tant que soignant et ex-patient, les 5 et 6 novembre, donc ça va être en visioconférence, parce que, vu le contexte actuel, les personnes pourront nous voir en visioconférence, comme ça va se faire dans les ateliers et aussi dans où ça devait se faire. Donc on va nous voir en action, comme on nous a vu le 21 janvier à la mairie centrale où il y avait 300 personnes.
Ça, ce sera visible pour les auditeurs de Radio Canu
sur Facebook Live.
Sur Facebook.
Sur Facebook Live.
Il y aura un Facebook.
Entendu.
Oui, on a travaillé depuis 3 mois. Alors,
donc on tape coordination 69, vous faites suivre ou
Non, je pense que c'est plutôt Osper Sandara. Peut-être que Bénédicte vous dira.
De toute façon, on y sera alors.
Ah oui, sinon c'est la DES du Rhône, c'est ça? C'est le site de la DES du Rhône?
Non, c'est pas la DES, c'est Osper Sandara.
Je pense que vous trouverez les informations sur le site de l'Osper Sandara.
Alors c'est pas facile à retenir. Hein. Comment on peut les plaire?
O-R-S-P-E-R-S Sandara, trait d'union S-A-M-P D-A-2-R.
Normalement, ça devait être en public.
Sandara.
Et là, c'est comme à cause du Covid, on va faire l'exercice, on va faire les tables rondes, les débats, mais il devait y avoir du public, plein de monde.
Des ateliers aussi le 6, hein, c'est en grande partie tous concernés qui vont organiser les ateliers, des ateliers différents sur la santé mentale. Donc il y a le travail, il y a la vie artistique, il y a les addictions, il y en a 10 ateliers différents.
Alors ces ateliers sont organisés par qui? On les trouve comment?
En grande partie c'était organisé par tous concernés et aussi Osper Sandara, eux ils sont la technique et tout, et ils ont quand même bien préparé quand
c'est
même.
C'est une collaboration entre médecins ou chercheurs et personnes concernées sur des tables rondes, des débats, des thématiques, le questionnement que se posent les problèmes problèmes psychologiques, la place. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on représente les personnes concernées, on pense à elles, et on essaye d'œuvrer. Le projet territorial de santé mentale, c'est un plan pour améliorer la santé mentale en 5 ans, en accord avec les institutions, avec la présence de personnes concernées.
Ça, c'est le
Mais notre problématique, c'est de penser aux personnes qui sont concernées comme nous, et d'essayer d'améliorer les choses pour eux. Ah, c'est ça qu'on pense. Quand on fait des réunions, on essaye de penser comment améliorer les choses pour eux.
On parlait de... Pas mélanger entre l'OSPER...
Oui, non, là, je parlais du projet territorial.
Parce que on fait les deux,
tout ce qu'on fait, c'est pour les personnes concernées.
C'est deux activités, deux collectifs différents.
Alors, on n'a pas présenté Marie-Christine Pillon. présidente de Coordination 69, et qui veut redonner espoir surtout. Hein, si je reprends les mots un petit peu qu'on s'est dit entre, sur la tournée de Tablet tout à l'heure, ça fait beaucoup d'informations, hein, c'est foisonnant. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une grande, forte mobilisation sur cette thématique.
Je crois effectivement que la mobilisation sur cette thématique, elle est absolument nécessaire. Marie-Andrée a indiqué tout à l'heure le nombre de personnes qui pouvaient être concernées effectivement par des troubles psychiques sur notre territoire.
Alors, présidente de Coordination 69, Marie-Christine Pillon.
Voilà. Et effectivement, les besoins pour améliorer les conditions de vie de ces personnes, et Nicolas et Jean-Louis en ont parlé tout à l'heure, nécessitent vraiment une mobilisation de tout le monde. Alors je crois que ça nécessite à la fois une mobilisation des personnes elles-mêmes, de leurs proches, on l'a dit, des professionnels, bien sûr, pour faire évoluer les pratiques, pour faire évoluer les relations entre les différentes structures qui proposent des soins et des accompagnements aux personnes pour améliorer de manière décisive ce qui leur est proposé. On a évoqué tout à l'heure peut-être le fait qu'effectivement la recherche n'est pas suffisamment développée, qu'un certain nombre de structures ont besoin de se reconvertir ou de modifier leurs pratiques pour être au plus près des attentes et des besoins des personnes. Et puis il y a aussi toute la société. On a évoqué tout à l'heure le fait que la semaine d'information sur la santé mentale cette année et le thème en est les discriminations, et pour ce qui concerne effectivement les maladies psychiques, toute la question de la stigmatisation, et cette question là elle est aussi majeure. Elle est majeure parce que effectivement quand une personne, comme les troubles mentaux sont extrêmement stigmatisés quand même encore dans notre société, on en a peur, on ne connaît pas, on s'inquiète de qu'est-ce que peut faire un malade psychique.
Et puis le public n'est pas formé. Pour donner un exemple, dans le cadre d'une école de musique où j'ai rencontré une autiste Asperger, en fait, et elle-même, une fois, comme les personnes malades, en tant que personne malade, qui arrivait à embarquer des élèves et des professeurs pour les emmener à l'hôpital du Vinatière, rencontrer une psychologue spécialisée dans l'autisme pour qu'elle nous explique ce que c'était et comment, dans le quotidien, réagir face à des réactions inattendues ou comment on pouvait l'accompagner et que les choses pouvaient changer. Il y avait plusieurs options et que même elle était en train de chercher des endroits pour s'isoler, des endroits de silence avant les concerts, peut-être des fois avoir quelque chose de rassurant qui l'entoure. Et donc, c'était des réflexions, c'est tout le temps en réflexion. Ça, c'est un exemple personnel. Peut-être vous en avez certainement d'autres par rapport à d'autres troubles ou maladies. Et puis concrètement, ça, je pense, c'est ce genre d'exemple d'auditeurs qu'on pourrait avoir besoin. Moi, j'aurais pas eu imaginé ça si elle n'avait pas cette volonté d'accompagner elle-même.
Tout à fait. Et du coup, on voit bien qu'effectivement, on peut tous être concernés, apprendre et du coup améliorer de manière considérable le regard qu'on porte sur les personnes. Et c'est vrai que les problèmes de stigmatisation créent effectivement des barrières importantes à la qualité de vie des personnes, des barrières par rapport à l'accès aux soins, parce que c'est vrai que reconnaître qu'on a des difficultés psychiques, c'est très compliqué, c'est très difficile.
Il faut déjà avoir le diagnostic, on le disait tout à l'heure. Il faut déjà avoir diagnostiqué, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est ça la problématique. C'est avant de pouvoir signaler.
Le diagnostic est souvent très tardif parce que les personnes elles-mêmes ont souvent beaucoup de difficultés à accepter qu'elles ont des difficultés psychiques. Mais pas seulement parce que c'est la maladie qui leur procure ce genre de difficultés, mais aussi parce que l'ensemble de la société considère de manière tellement négative les personnes qui vivent avec des troubles psychiques que se reconnaître avec des troubles psychiques, c'est très compliqué. On en a honte, on a peur de perdre ses amis, on a peur d'avoir un regard très négatif à son égard, etc. Et du coup, ça retarde de manière très très importante, souvent, l'accès aux soins. D'autant plus que les soignants et les structures en psychiatrie sont aussi, finalement, d'une certaine manière, stigmatisées. Elles sont mal connues et du coup, les personnes ont souvent beaucoup de réticence à s'adresser à ces structures. Et on sait aujourd'hui que plus la maladie est traitée de bonne heure, plus les personnes sont prises en charge de bonne heure et plus leur pronostic et leur qualité de vie ultérieure va en être changée. Et ça, c'est extrêmement important.
Et moins isolée aussi.
Mm. Moi, ce que je disais, c'était...
Oui, Nicolas.
Une crise, la maladie, ça n'arrive pas à une crise, et je veux dire une crise rapide, et puis pardon, je ne trouve plus les mots, mais une crise rapide, un rétablissement rapide, sans
une
perte,
prise en charge,
une prise en charge rapide, et sans perte de sociabilisation, pas arrêter ses études, garder ses études, des traitements adéquats, c'est vrai, ça, on en a parlé. Il y a 13%, ça, j'ai vu le psychodon, c'était très intéressant d'ailleurs. Je remercie ceux qui l'ont fait. Ils l'ont dit. Il y a 13% des ressources qui sont adjugées aux allocations compensatrices et seulement 3% au budget. Donc, avec un traitement adéquat, il faut forcer la recherche sur les traitements adéquats. Parce qu'un traitement qui ne fatigue pas, c'est un travail qui peut permettre de travailler. Donc, une temps d'hospitalisation court, une prise en charge rapide, un traitement adéquat et hop, on reste sur le cap de l'emploi.
Jean-Louis et puis Marie-André.
Voilà, moi j'ai un petit détail à apporter, c'est que souvent les malades, au départ de la maladie, ne sont pas toujours conscients d'être malades, hein, parce que le malade, il peut très bien aller. C'est comme un malade qui arrête son traitement, eh bien il va très bien, on entend, puis au bout de 2 ans, il peut se retrouver complètement perdu. Hein. On n'est pas toujours conscient qu'on n'est pas bien. On va bien, mais en réalité, on ne se rend pas compte qu'on ne va pas bien. Et c'est aussi une problématique de la santé mentale que hein, si on a mal à la tête ou au ventre, on se rend compte, mais cette maladie elle fait pas toujours mal, hein, c'est plutôt les traitements après qui peuvent être plus difficiles. Voilà,
oui, pour Jean-Louis, je pense qu'effectivement la maladie psychique est telle qu'on a du mal à apprendre que la personne qui est affectée par la maladie est parfois dans le déni de cette maladie, où elle n'est pas capable, à cause des dysfonctionnements effectivement au niveau neuronal, de se rendre compte qu'elle est malade. Alors il y a tout un accompagnement qui peut être fait de manière très précoce, et c'est ça qui est important. Comme toute autre maladie, elle doit être soignée le plus tôt possible. Quand vous êtes atteint d'un cancer, quand on vous décèle une tumeur, on ne vous dit pas ben, « vous pouvez attendre 2 mois, 3 mois ». On vous prend en charge tout de suite. Pour la maladie psychique, il y a effectivement des difficultés parfois à faire un diagnostic, mais je dirais peu importe le diagnostic. Quand on voit le mal-être chez la personne, quand on voit qu'elle ne va pas bien, il faut soigner. Et on sait aujourd'hui qu'on peut se rétablir de la maladie psychique. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle, hein, avec des traitements et un accompagnement adapté lorsqu'il est mis en place précocement, justement, et dans la durée. Et que là, on peut miser aussi sur les capacités, sur les ressources de la personne pour construire avec elle son parcours de vie, de rétablissement. Et en fait, il faut savoir qu'il y a peu de personnes qui sont hospitalisées. La plupart des personnes malades psychiques, elles vivent dans la cité. Ce sont des citoyens à part entière. Hein. Il y a 85% au moins des personnes qui n'ont même, pour certaines, jamais été hospitalisées et qui vivent, comme tout un chacun, dans la cité. Donc, pour ces personnes-là, il faut faire en sorte qu'elles aient une vie pleine, pleine et entière.
Thérèse.
Oui, je dirais donc que souvent on entend parler de personnes qui ont commis un acte imparables et on dit ce sont des malades mentaux, alors que effectivement, mais c'est des gens qui n'ont jamais été soignés, qui n'ont jamais connu, parce que les gens qui sont en soins et tout ça, non, il n'y arrive pratiquement pas de problème, il n'y a pas de problème. Hein, les malades mentaux, comme on dit, c'est des malades, mais qui n'ont jamais été soignés, pratiquement toujours. Hein, quelqu'un qui est suivi, parce qu'on est suivi, donc on n'est pas lâché dans la nature, normalement. Eh bien, il n'y a pas de problème de dangerosité, de tout ce que vous voulez.
Donc, le soin permet un rétablissement, une stabilité et du coup, une réinclusion aussi, comme pour reprendre le terme de Nicolas, mmh. Et peut-être aussi un enrichissement de la vie sociale, c'est-à-dire voilà, pouvoir se sociabiliser.
Il y a presque une guérison hein, pour certains. Même quand on est stabilisé, on est presque comme le cancer, stabilisé. Eh bien, après, on n'a plus qu'à rester dans le même truc et ça va normalement, on va dire. Et après, c'est qu'une question de traitement. Mais hein, comme je le disais tout à l'heure, la maladie, elle transforme en positif. Hein, parce qu'on est veillé de tous les côtés. Et voilà. Et d'autre part, c'est quand même un moment difficile à passer, une maladie comme ça. Hein. Que ce soit cette maladie ou un cancer ou autre chose, c'est difficile à passer. Et comme je disais encore, ça dure très longtemps. Hein, parfois 10 ans, 15 ans, 20 ans, même après avec les soins. Mais il faut persévérer. Et ça va toujours nous élever, en somme.
Donc comment on accompagne par exemple une personne où on a l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de grave et c'est la première fois on lui dit d'appeler son médecin, est-ce qu'on lui dit d'aller voir des urgences, d'aller voir directement un psychiatre, parce qu'on est un peu déstabilisé quand on ne connaît pas ni l'entourage, ni pour le signaler à une personne qui fait quelque chose d'un petit peu excessif, parce que bon, on disait tout à l'heure, oui quand on ne va pas bien, mais quand on ne va pas bien, tout le monde ne va pas bien dans nos sociétés aujourd'hui, il y a de quoi, on disait, est-ce que c'est la société actuelle qui rend malade, ou est-ce qu'on... voilà, donc finalement, à quel curseur déjà on se dit, tiens là, s'il vaut vraiment, c'est une prise en charge, ou non, c'est juste une passade, c'est juste bon, bah, un coup de blues, déjà dissocier ça, et puis après, quelle est la personne, est-ce qu'il y a des personnes appropriées rapidement en cas d'urgence, c'est-à-dire de mise en danger de soi ou de l'autre, par exemple, j'imagine.
C'est très difficile, parfois, de faire la différence entre une simple crise d'adolescence, parce que les maladies psychiques, en général, se déclarent au moment du passage de l'adolescence à l'âge adulte, entre 15 et 25 ans, 30 ans. Et pour des parents, pour l'entourage de ces personnes, c'est très difficile de faire la différence entre une simple crise d'adolescence et une maladie chronique sévère qui va s'installer. Donc, en fait, on navigue un petit peu à vue. Et c'est souvent à force de répétition de situations de crise, de mal-être, de fugue parfois de la personne, et quand ça va beaucoup plus mal, ça peut aller jusqu'à la tentative de suicide. Donc là, c'est un coup de tonnerre pour les familles, pour l'entourage. Et bien sûr, on réagit, bien sûr, on accompagne notre proche aux urgences psychiatriques, si on n'a pas pu avant en parler à son médecin traitant. Et pour l'instant, il y a encore trop peu de connexion entre la médecine générale et la médecine psychiatrique, je dirais. Et ça fait partie d'un des objectifs, justement, de renforcer cette interaction entre les deux, au niveau du projet territorial de santé mentale dont nous avons parlé. Il y a beaucoup d'actions, dont
c'est
celle-là.
Un énorme travail.
Oui.
Que vous faites, vous, à l'intérieur de vos associations,
pour
en
la
plus
plupart
du
des
soin.
Cas, je dirais que quelqu'un qui ne va pas bien, il va d'abord voir son généraliste, et puis le généraliste, il donne un traitement, après il retourne, le généraliste va l'envoyer vers un spécialiste. Et le spécialiste, eh bien, il va prendre en main. Bien souvent, la plupart des gens sont pris en main comme ça. D'autre part, nous avons demandé dans le PTSM que, par exemple, les psychologues soient pris en charge ou qu'il y ait une structure comme les médecins, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin de consulter, de parler, de voir des choses qui ne vont pas. étant donné que ça coûte très cher pour la plupart des gens, donc ils ne peuvent pas voir ces psychologues. Parce qu'un psychologue, quand il est dépassé, il dit, bien maintenant, il faut que vous alliez en structure ou quelque chose. Hein. Et il faut que les gens, bien souvent, ils ont ce suivi de psychologue, psychiatre, quand ça ne va pas. Et de même, au lieu d'attendre d'aller d'être hospitalisé, presque d'office ou je sais pas, par les pompiers ou d'une tentative de suicide, c'est quand même très grave. Et avant, il faut orienter les gens vers les psychiatres ou psychologues, mais il faut que les psychologues soient pris en charge donc par nos assurances. Et il y en a beaucoup, je pense, beaucoup de gens qui vont pas bien, qui ont besoin de consulter. Avant que ça soit trop grave. Parce que les gens, ils n'osent pas, bien souvent. Ils préfèrent aller voir peut-être un psychologue qu'un psychiatre. Parce que c'est pas pareil, mais même.
Donc avec Organisation 69, est-ce que des personnes peuvent venir, par exemple, s'informer auprès de vous pour savoir qui peuvent aller rencontrer pour un accompagnement?
Alors, ça peut arriver, effectivement, que des personnes téléphonent pour avoir un renseignement. En fait, c'est pas tout à fait notre but et notre objectif. Par contre, effectivement, on évoquait tout à l'heure le projet territorial de santé mentale. Dans le cadre de ce projet, il y a l'idée de créer, effectivement, au niveau de l'ensemble du département, une plateforme d'écoute et d'orientation pour permettre effectivement, avec un numéro unique sur le département, de pouvoir avoir accès à un professionnel qui va vous écouter, qui va essayer de comprendre un peu quelle est la problématique et pouvoir orienter la personne ou ses proches sur le bon endroit pour effectivement être prise en charge. Ça, c'est vraiment un des objectifs extrêmement importants. Et puis,
Vous pensez le réaliser quand, cet objectif? Vous donnez quoi comme...
Pardon?
Comme temps? Vous le projetez sur
comme temps
de réalisation?
Pour aller assez vite, oui. Parce que c'est quelque chose qui a été expérimenté pendant le temps de confinement, au mois d'avril, au Vinatier, oui. Et ça a très bien marché. Et l'idée, c'est effectivement de développer une telle plateforme sur l'ensemble du département.
Donc, comment s'informer pour savoir quand ce sera réalisé? Est-ce que le PTSM, c'est sa fonction, c'est ça? Le projet territorial de santé mentale, oui. Du Rhône, vous avez un téléphone, un mail, un contact, dire, ben voilà, aujourd'hui, on annonce qu'officiellement, il y a une ligne qui s'est ouverte, vous pouvez voir, consulter tel site.
J'espère.
Comment est-ce qu'on pourrait le dire? Je pense qu'il y aura effectivement une information très large qui sera faite à ce moment-là par l'ensemble des médias qui peuvent être utilisés.
Alors, quels sont-ils?
Ouais.
Quels médias? Quel mail? Quel site?
Bon, ça peut être... Je pense qu'il y aura des choses qui iront... toutes les associations, déjà, auront cette information. Et puis, je pense que par la presse, il y aura une large campagne de publicité.
Donc, l'ADES du Rhône, par exemple, l'Association départementale d'éducation à la santé?
Oui, l'ADES sera sûrement au courant.
Mais le FNAPSI?
Les maisons du département du Rhône, les maisons de la métropole, les CCAS, etc. Enfin, toutes les...
Fédération nationale des associations?
Du sociaux seront informés.
Oui, ouais. Entendu. Bon, ben voilà, au moins, on sent qu'il y a du lien qui se crée, il y a des réseaux.
Voilà.
Oui, vous savez que dans le VTSM, on a fait la père aidance. Il y a une association qui s'est créée de père aidance professionnelle. Donc, moi, je n'ai pas le téléphone, mais eux, ce sont des anciens patients et ils sont capables d'aider les personnes en difficulté. On peut les appeler pratiquement tous les jours, peut-être sauf le dimanche. Ils sont à la disposition des gens. Donc, c'est actuellement, ça fonctionne.
Vous avez un numéro ou un mail annoncé?
Non, je n'ai pas. Leur
c'est ESPAIR, ESPAIR.
Ils ont un site internet très bien fait.
Bon.
ASOBU.
Oui.
D'ailleurs, ils sont en état de fonctionnement, là, ils travaillent. Hein.
Alors moi, j'ai bien retenu l'ADES parce que c'était facile à retenir. Hein. Il y a quatre lettres, ADES.
Mais ESPAIR, l'association ESPAIR.
ESPAIR, c'est des pères aidants, c'est-à-dire d'anciens patients qui ont passé des diplômes et qui essayent d'aider d'autres personnes concernées. Mais c'est leur job. Leur job, c'est d'aider des personnes comme eux, mais eux, ils ont passé un diplôme.
On peut répéter pour qu'on comprenne bien, parce que j'ai même pas entendu les lettres.
ESPAIRS.
espère, ouais. Comme espoir.
Oui.
Ok.
Oui, c'est pour ça.
Ça entre les casques, les masques, oui. Ça fait.
Et puis, oui. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, autour de, bah oui, effectivement, on est en lien avec une personne qui manifestement a des difficultés psychiques. Qu'est-ce qu'on fait, comment on peut faire, etc. Se développe actuellement en France ce qu'on appelle les premiers secours en santé mentale, qui sont effectivement un dispositif qui vient d'Australie, qui est en train d'être développé effectivement en France, comme il existe effectivement un diplôme, enfin en tout cas un certificat pour les premiers secours, où on apprend effectivement, quand on a devant soi quelqu'un qui fait un malaise, comment est-ce qu'on peut s'y prendre. Eh bien, il existe effectivement quelque chose qui est en train de se développer de la même manière en France, qui s'appelle les premiers secours en santé mentale.
D'accord, ça se forme par c'est l'ADES aussi, où on se renseigne?
Non, alors il y a un certain nombre, il y a des organismes de formation différents qui vont le proposer, de la même manière que dans les premiers secours, il y a aussi un certain nombre d'organismes différents qui le proposent. Le déploiement va commencer par des populations un peu ciblées au niveau des étudiants. Il y a un travail qui va se faire avec les facultés de Lyon pour effectivement permettre cette formation aux étudiants. Il y a effectivement des lieux qui ont commencé à le travailler et il est probable que ça va se développer de manière importante, en particulier auprès des professionnels qui sont en lien avec du public. Comme effectivement, bah, je ne sais pas, les accueillants dans des structures diverses et variées, etc. Et puis petit à petit, l'idée, alors on n'en est pas encore tout à fait là, en Australie, toute la population est formée. On n'en est pas encore là en France, mais on peut se dire que dans un petit nombre d'années, on arrivera effectivement à aller jusque-là.
Merci beaucoup à tous mes invités. C'est bien de terminer sur une note positive d'action. Hein, parce qu'il faut, on sent toute l'énergie que vous passez et toutes ces structures, cette fédération, cette solidarité, malgré les difficultés, la souffrance et les soins, et le manque finalement de moyens, surtout, on le voit aujourd'hui dans l'ensemble général de la santé, hein, pour résumer. Merci à tous d'être venus. Alors, je ne recite pas tout le monde, j'ai peur d'écorcher. Alors, si, il y a Jean-Louis, Marie-Christine, Marie-André, Nicolas, Yvan et Bénédicte. Je ne me suis pas trompée.
Oui, mais moi, je dirais surtout que les moyens, ils doivent venir de nous. Hein, parce que les moyens, mais donc si nous faisons pas d'efforts... donc comme là apparemment, si j'ai bien compris, on a parlé beaucoup du projet territorial de santé mentale, eh bien il y a des fonds qui seront débloqués pour continuer ce projet. Et on a travaillé quand même pendant un an ou deux pour rien, enfin pas pour rien, mais bénévolement on va dire.
Oui Jean-Louis, j'ai bien compris, c'est votre force, voilà, votre volonté, oui, qui a permis d'obtenir, vous êtes battu pour avoir des fonds. Oui. Entendu. In Black City, you better keep your hands on your guns. Cause if you're looking for troubles, you came to the right place. Well, I'm gone. Nicolas, un mot de la fin.
Une pensée pour le frérot Mikey qui écoute. On pense à toi.
Ah bah oui, voilà, une dédicace aux familles. Voilà. Et oui, donc, concert, exposition. Non, alors, les concerts, c'est Karine Davier ce soir à la salle des Ranciers, à l'MJC. L'exposition au Palais de Bondy en ce moment, Papy Art, il y a Barbara Lertz qui expose, mais ils sont énormément, ils sont plus d'une cinquantaine. Donc, Palais de Bondy, il y en a certainement qui connaissent. Est-ce que vous êtes déjà allé visiter des expositions concerts au Palais de Bondy? Il y a aussi des salles de concert à Salle Molière et à l'étage, il y a des expos. Donc c'est gratuit, hein, c'est ouvert au public, c'est ouvert même le dimanche, donc c'est un lieu de visite, de bien-être pour aller visiter. Donc Palais de Bondy, une salle magnifique, il y a deux grandes salles d'exposition avec plein de dessins, il y a des fois des tableaux. Donc, et puis la dernière chose, j'ai oublié, Malvina que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, qui est fait de la BD. Donc elle est samedi, donc demain au Macanudo, qui est un bar en face de la piscine du Rhône, où ils font aussi des scènes ouvertes de slam notamment. Allez, je laisse la place à Richie. Merci à tous, hein. Merci.
Merci.
gonna